franceinter.fr.
Pop, etc. Avec Valley sur France Inter.
Bonsoir et merci d'être avec nous dans Pop, etc. À la fin des années 70, la jeune Grace Jones avait connu les sommets avec sa carrière de chanteuse et mannequin, mais était en perte de vitesse. Ses albums disco appartenaient à une époque révolue et son allure n'était plus une nouveauté. Mais elle avait le don de s'entourer des artistes et des gens talentueux. Deux d'entre eux ont compris qu'ils avaient un diamant brut entre leurs mains, un pour le son, l'autre pour l'image. Ils se nomment Chris Blackwell et John Paul Good. C'est le label de Blackwell Island que l'album de Grace Jones, Nightclubbing, est sorti en 1981. Sur la pochette, un portrait iconique qui traverse les décennies signé John Paul Good. À l'intérieur, un nouveau son qui allait inspirer le new wave et la musique des clubs. On revient sur cet album ce soir. Mon invité en studio fait partie des musiciens géniaux de ce disque. Il s'appelle Wally Badarou. Bonsoir Wally.
Bonsoir Wally.
Merci, oui, il faut le dire, Wally et Wally se trouvent ensemble, c'est assez incroyable. Vous avez joué les claviers sur cet album et sur plusieurs d'autres albums de Grace Jones et vous allez raconter cette histoire ce soir. Il y aura aussi les témoignages de Jean-Paul Good et du batteur Sly Dunbar. Nightclub est une reprise du morceau écrit par Iggy Pop et David Bowie. Grace Jones s'est l'approprié avec sa voix reconnaissable parmi toutes.
Ma voix est très bas. Ce n'est pas naturel pour moi chanter haut. Je prends toujours les courses de chansons, de voix. Toujours, en pratique et tout. Ouais. Parce que je pense à bon, oui, il y avait des femmes, des artistes femmes qui étaient très girly, ça veut dire très fille. Et moi, je ne suis pas du tout sexy, oui, mais en même temps, je peux jouer les deux côtés, garçon, fille, fille, garçon, mélange, tu vois. Night clubbing, where what's happening? Night clubbing, we're a nice machine. We see people, brand new people. There's something to see. We're night clubbing, bright white clubbing. Oh, isn't it wild? Night clubbing, we're walking through town. Night clubbing, we walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. Yeah, night clubbing, bright white clubbing. Oh, isn't it wild?
Nightclubbing, Don't Pop, etc. On parle de l'album du même nom, sorti ce soir en 81, avec mon invité, le musicien Wally Badarou. Wally, vous jouez les claviers sur cet album qui a été enregistré en 1980. Je vois que vous écoutez ça avec grande attention. C'est vrai qu'avoir ça dans les cas, c'est merveilleux. À l'époque, vous étiez musicien de studio, spécialiste des synthés. Vous avez travaillé avec Joe Cocker, Mick Jagger, Jimmy Cliff, Gregory Isaacs, Robert Palmer, Marianne Faithfull. Il y en a tellement, je ne peux pas tous les nommer. Et on vous appelle aussi le cinquième membre du groupe Level 42. Comment vous êtes-vous trouvé dans cette aventure avec Grace Jones ?
Oh, de manière très prosaïque, en réalité, je n'avais pas du tout planifié cela. C'est un concours de circonstances. Il se trouvait que je travaillais beaucoup aussi à l'époque en France avec un producteur qui s'appelait Daniel Vanguard, s'appelle toujours Daniel Vanguard, le père de Thomas Bangalter, Daft Punk. Et que lui, c'est lui qui m'a recommandé à Blackwell lors d'un midem, je crois. C'était, Blackwell cherchait quelqu'un, un clavier européen, pour faire une sorte de cocktail avec ces musiciens jamaïcains. Moi, je n'étais pas trop au courant de ça. Daniel Vanguard m'en parle et j'ai Blackwell qui me dit, ben, tu es d'accord, on se fait... tout de suite on parle le prix, ok. Et j'étais dans l'avion quelques mois plus tard pour une aventure qui devait être simplement un album et qui a fini par devenir un séjour de 14 ans à Nassau.
14 ans ?
Oui.
Vous vous êtes installé là-bas, sur
voilà,
cette île ?
Tout à fait, oui.
Oui, parce que vous vous retrouvez aux Bahamas, donc au Compass Point Studios, le tout nouveau studio de Chris Blackwell. En tout cas, il y avait à peu près 3 ans en 80.
Voilà, oui.
C'était un studio très coté, c'était un studio à la pointe de la technologie.
Au début, non, mais c'est parce que nous avons fini par faire, oui, il est devenu un pôle d'attraction, une sorte de Nashville in the Caraïbes, quoi. Une sorte de... C'est de Tamla Motown in the Caraïbes. Et, mais c'était effectivement la figure charismatique de Blackwell et le son qu'on développait là-bas qui a permis cette chose-là.
Voilà. Oui, les artistes ayant enregistré au Compass Point Studio, c'est Talking Heads, Joe Cocker, The Rolling Stones, R.E.M., U2, Roxy Music, B-52, Shah, Deontay, il y a une tonne de gens. Tout et notamment Grace Jones, qui était au début, en
voilà.
fait. De...
On a vraiment démarré l'aventure avec essentiellement les Talking Heads, qui ont été le premier groupe à avoir enregistré à Compass Point Studios.
More Songs About Buildings and Food, l'album que j'adore.
Ouais. Et vite, dans la foulée, Blackwell nous a fait démarrer cette histoire qui s'appelait Chris Jones. On a fait 3 albums, Joe Cocker par la suite et tout le reste.
Quelle image avez-vous d'elle, de Grace Jones, à cette époque? Connaissiez-vous sa musique, sa carrière de mannequin?
Alors, ce que vous me posez comme question me permet de démythifier beaucoup de choses.
Dites-moi
et
tout.
De dire tout le mal. Non, en réalité, c'est vrai qu'à cette époque-là, nous étions, comme disent les Américains, « fed up with disco ».
Vous en aviez marre de disco.
Complètement. Et moi, j'étais plutôt jazz, funk, comme avec Level 42, on a pu le prouver. Et moi, le disco, c'était la perversion même de la funk music telle que moi, je l'aimais. Et donc, travailler avec Grace Jones, en soi, n'était pas si attirant que ça. Moi, je suis parti essentiellement pour voir le large et tenter quelque chose de complètement différent. Et puis, très intrigué, parce que sans trop connaître Blackwell, je savais que c'était un homme de reggae. Et je ne voyais pas très bien pourquoi il faisait appel à moi. C'est-à-dire que l'explication de ce cocktail, on ne l'avait pas encore. Ça s'est prouvé par la suite, quoi.
Wally Badarou, vous faites la connaissance d'autres musiciens à Nassau, européens mais jamaïcains pour la plupart, dont Sly Dunbar, le fameux batteur. Dans quelques instants, Sly parle de sa rencontre avec Grace Jones et avec les Compass Point All-Stars dont vous faites partie. Mais d'abord, Walking in the Rain, extrait de Nightclubbing, sorti en 1981.
Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard, oh so rad, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking in the rain. Feeling like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can, whistling in the darkness, shining in the light, coming to conclusion, right is night, is time, walking. Walking in the rain,
Grace Jones dans Pop, etc. Au générique de l'album Nightclubbing, un ensemble de musiciens qu'on appelait The Compass Point All Stars, d'après le studio dans lequel ils enregistraient. À la base de cette rythmique, les fabuleux Sly et Robbie à la batterie et la basse. C'était déjà des stars dans leur pays, la Jamaïque. Ils avaient travaillé avec Peter Tosh, Black Uhuru ou Jimmy Cliff et sur les deux albums reggae de Serge Gainsbourg, dont Aux Armes, etc. Sly Dunbar et Robbie Shakespeare ont à eux deux façonné le reggae, mais aussi la musique à travers le monde. J'ai eu Sly au téléphone à Kingston avant-hier et je lui ai demandé quand et comment il avait rencontré Grace Jones.
J'ai rencontré Grace Jones pour la première fois en 1981 à Nassau, aux Bahamas. Au départ, on était à New York et Chris Blackwell nous a fait venir pour nous parler d'une Jamaïcaine qu'il avait signée. Il avait envie d'enregistrer une sorte de reggae avec elle. Donc il nous a donné à Robbie Shakespeare et moi ses albums disco. On ne les a jamais écoutés.
Les séances ont démarré en 1980 à Nassau. On demande à Chris, qu'est-ce qu'on joue ? Il répond, je ne sais pas, mais faites de la musique. Quelqu'un a dit qu'il fallait répéter avant, mais Robbie a dit, non, non, allons au studio et trouvons le groove. Donc nous voilà avec l'ingé son, Alex Satkin. Ça lui a pris une semaine pour régler la batterie, les claviers, la basse et tout. Et il a trouvé un son. On a enregistré une cassette pour Chris Blackwell d'une chanson qui s'appelle Since Emilia. Il l'a trouvé très bien et pensait qu'on pouvait l'utiliser pour le disque de Grace Jones. C'est comme ça qu'on a créé le son pour elle. Le son Grace Jones, c'est le son Blackwell. C'est dans ce studio que j'ai vu Wally Badarou et le guitariste Barry Reynolds pour la première fois. Michael Chung, Sticky Thompson, Robbie Shakespeare et moi-même, on ne se connaissait parce qu'on a grandi ensemble à la Jamaïque. Le premier morceau qu'on a enregistré était Warm Leatherette, et en le réécoutant, on n'en croyait pas nos oreilles. La deuxième chanson qu'on a enregistrée, c'est ma préférée de Grace Jones, c'est Private Life.
C'est une reprise des Pretenders.
C'était génial, une autre dimension.
Your marriage is a tragedy, but it's not my concern. I'm very superficial. I hate everything official. Private life, Tom will be me out.
Pour toutes les chansons qu'on a fait avec Grace, il n'y a eu qu'une seule prise, jamais deux.
Wow, alors que vous n'aviez pas répété du tout.
Tous les musiciens qui étaient dans ce studio étaient des professionnels. Donc on savait comment jouer en groupe, ce qu'il fallait faire et ne pas faire. C'était facile d'avoir cette connexion très forte entre nous.
C'est très vrai, mais on peut dire aussi que le son est très différent. C'est comme si vous aviez créé un nouveau son.
Oui, c'est ça. On s'est retrouvés dans ce studio et on a regardé l'image de Grace Jones. C'est comme si on pouvait créer un son simplement en la regardant. Ce son est sorti de nous tous, de Wally Badarou au clavier, Michael Chung à la guitare. Ce son est venu de nulle part, comme par magie.
Oui, c'est de la magie.
Pendant l'enregistrement à Nassau, Wally n'était pas tout à fait en face de moi, mais je voyais ses yeux tout le temps et on souriait. Quand on avait trouvé ce groove, on souriait, on jouait avec ses grooves déments et je secouais la tête en disant « ça tue ce truc » et lui disait « yeah man ».
C'est adorable. Il est en studio avec moi. Vous voulez lui faire passer un message ?
Oh, Wally Badarou, le prophète. On l'appelle comme ça. Il n'y a qu'un seul Wally Badarou au monde et on l'appelle le prophète. On ne peut pas le reproduire. Celui qui essaye de reproduire sa musique est un imposteur. Donc je lui envoie tout mon respect et tout mon amour. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré.
C'était Sly Dunbar que j'ai eu au téléphone en direct d'un Kingston ensoleillé, Wally Badarou, le prophète. Beaucoup d'émotions entendre Sly Dunbar parler de vous et de cette époque.
Oui, mais ma grande crainte, c'était que, vous savez, ça fait 30 ans maintenant, même presque 40 quand on y pense. Et le souvenir a toujours cette tendance à embellir les choses, à les distordre un peu. Et c'est assez très émouvant. C'est émouvant de voir qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on garde en commun en ce qui concerne le souvenir de tout ça. Et Prophète, parce que c'est, j'utilisais un synthétiseur qui s'appelait le Prophète 5 à l'époque.
C'était une nouvelle machine à cette époque-là, ou c'était nouveau dans la musique pop, je ne sais pas.
Oui, mais il avait déjà été popularisé par mes héros dans le jazz fusion, par des gens comme Weather Report ou Herbie Hancock.
Avec qui vous avez travaillé, je pense aussi.
Et donc pour moi, c'était... je ne le connaissais pas, je l'ai découvert à Nassau, en fait, et je me suis mis en tête de le faire exploser vraiment, et c'est ce qui m'a donné un peu ce surnom-là. Mais cela, c'est réciproque, hein, c'est exactement une admiration folle, alors que, très honnêtement, c'est vrai, on ne se connaissait pas du tout. Campus Point All-Stars a ceci différent d'un groupe normal, c'est que dans un groupe normal, les gens se cooptent, hein, se choisissent les uns les autres, alors que là, c'était Blackwell qui nous avait choisis et qui nous avait mis ensemble pour une chose dont on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Et comme il le dit très bien, le premier morceau, c'était Warm Leatherette, c'était immense. Et son Private Life, qui est venu juste après, pour moi, ça a été vraiment le signal qu'on avait vraiment quelque chose d'incroyable. Ça reste également de très loin mon morceau préféré. Et c'est une chose extraordinaire que vous ayez tenu à le mettre alors que nous avons parlé de nightclubbing. Il ne fait pas partie de nightclubbing.
Mais ça fait partie de toutes ces séances d'enregistrement. Voilà. Alors, j'ai demandé à Sly Dunbar quelle était sa chanson préférée sur l'album de nightclubbing. Oui.
Ma préférée, c'est Pull Up to the Bumper.
Vous avez très bon goût.
Oui, Pull Up to the Bumper. Je l'ai co-écrite, vous savez. Ce qui se passe avec la musique de Grace, c'est qu'elle n'est pas ordinaire. Elle n'a pas le même son que les autres, elle a son propre son, il n'est qu'à elle. C'est ce qui fait que tous ces disques sont remarquables et qu'ils passent l'épreuve du temps.
Long back.
Ah oui, c'était mes années où je suis arrivée à Paris en 1981. Grace Jones dans Pop, etc. Extrait de l'album Night Clubbing. Mon invité ce soir est le musicien-compositeur Wally Badarou, qui a participé grandement à cet album. Grace Jones se nourrit d'autres artistes. Elle en parle sur France Inter en mars 2009.
Quand j'étais avec Jean-Paul, même toujours, on parle toujours ensemble de la créativité et tout ça. Et il me donne des conseils parfois aussi, si j'en ai besoin, si je dis, oh, voilà. Parce que moi, j'aime beaucoup travailler avec quelqu'un, toujours. Parce que c'est un mélange un peu de qui je suis, un peu mannequin, un peu théâtre, un peu chanteur, tout mélangé, tu vois, avec les bonnes musiciennes. Hein. Surtout.
Jean-Paul dont parle Grace est bien sûr Jean-Paul Good, cet artiste plasticien, illustrateur, graphiste, directeur artistique, photographe et réalisateur, fut le compagnon de la chanteuse. Ceux qui ont eu la chance de voir sa rétrospective Good Malion au Musée des Arts Décoratifs à Paris en 2012 savent à quel point ce faiseur d'images est important dans la carrière de Grace Jones. Il a mis en scène dans les pubs, les photos, mais aussi dans son one-man show réalisé en 1980. Où on la voit clonée par dizaines. J'ai pu la voir, Jean-Paul Good, au téléphone hier et je lui ai demandé quand il l'a rencontrée.
Elle était déjà connue. Et moi, petit français frimeur, j'avais envie d'avoir une fiancée spectaculaire. Avec Grace, j'ai eu une fiancée spectaculaire. Mais sa carrière artistique me faisait plutôt sourire parce qu'elle était chanteuse de disco et moi, je ne supportais pas ça. Comme beaucoup de gens à l'époque, j'étais très, très influencé par ce qu'on appelait la New Wave. Donc pour moi, Grace, tout ce qui était disco, c'était presque synonyme avec la vulgarité, la pire. Par contre, elle était ma petite copine, elle était célèbre, et j'étais très fier de me promener avec elle à New York, malgré qu'elle soit une chanteuse disco. Mais je l'aidais déjà un petit peu. Je l'aidais, comme un petit ami aide sa fiancée. Et je suis venu à Paris pour voir ma mère, en fait. Et je suis allé acheter un cadeau pour Grace chez Kenzo, je me rappellerai toujours. Et là, il y avait la caissière qui parlait avec une de ses copines, des filles jeunes branchées de l'époque, et qui parlait de Grace. Et qui disait, oh, celle-là, elle est foutue, on n'en a pas pu parler. Enfin, c'était terrible. Elles étaient en train d'assassiner ma girlfriend. Et j'étais d'ailleurs tellement choqué que je n'ai pas pu réagir. Mais par contre, ma réaction a été différée. Et à partir de ce moment-là, mon orgueil a fait que j'ai voulu absolument qu'elle soit respectée par le monde entier. C'est un truc de macho ridicule.
Ça, c'est à la fin des années 70.
C'est la fin des années 70. C'est même avant. C'est 76, exactement.
Waouh.
C'est 76-77, et la raison pour laquelle j'ai séduit Grace, c'est pareil, c'est qu'elle voyait en moi un tremplin pour elle.
Donc du coup, Jean-Paul Good, elle était prête à tout, elle s'est livrée à vous, ou comment ça marchait votre collaboration?
Au début, elle était comme une fan, comme un fanatique, comme quelqu'un, c'est fan, je ne sais pas comment on dit en français. Enfin, groupie,
voilà, ok.
Mais d'ailleurs, il y a même dans Night Clubbing une chanson qu'a écrite Barry qui s'appelle Art Groupie.
Voilà, Barry Reynolds.
Art Groupie, c'est à propos de moi. Son genre, c'était pas les grands bruns ou les petits gros, c'était des artistes. Donc je pense que c'est ça qui l'a attiré vers moi. Moi, attiré vers elle pour ça, le fait qu'elle soit chanteuse et belle et c'est mannequin un peu fofolle, mais marrante, très marrante. mais elle avait quelque chose de très singulier, parce qu'elle elle était à la fois une morphologie masculine, mais qu'elle était très fille. Et elle se trompait souvent. Alors quand elle voulait se féminiser, elle était parfaitement ridicule. Elle était comme un garçon qui veut s'habiller en fille. Par contre, quand elle était habillée en fille, on voyait tout de suite que c'était une fille. Un garçon, on voyait tout de suite que c'était une fille.
Mm-hmm.
Et donc ça, ça a été ma première intervention, c'était de travailler sur sa morphologie et accentuer l'aspect masculin pour faire apprécier sa féminité.
Et c'est parfait sur la pochette de Nightclubbing, Jean-Paul Good. Oui. On voit vraiment cette juxtaposition justement avec cette grande veste Armani, avec sa peau noire.
Oui, alors ça, c'est pas une veste Armani, c'est une veste. Ah. C'est une veste à laquelle qui est complètement transformée. D'abord, ce portrait, c'est un portrait. C'est pas un portrait fait pour Island, ni pour Blackwell, ni pour personne. C'est un portrait fait pour moi. Ça fait partie de mon travail. Ça a été récupéré par Island, Dieu soit loué, parce que ça m'a remboursé mes frais. Et si j'avais emprunté une veste à Armani, elle était tellement moche que j'ai tout redécoupé et j'ai fait mon travail que je fais toujours sur les images. Et j'ai à la fois idéalisé Grace et sa veste. Je voulais en faire un personnage de spectacle, un personnage qui compte, un personnage qui, dans le panorama des artistes de rock'n'roll ou de musique populaire, qu'elle trouve sa niche. Et sa niche, c'était ça. C'était pas être cute, habillé en Saint-Laurent et faire disco. C'était un personnage. Je fabriquais à travers elle mon personnage, ma vision. Donc, Nightclubbing, c'est ma vision de Grace Jones, que je revendique à 100%. Je peux vous dire, c'est difficile de dire ça à propos de quelqu'un. Par contre, tout ce qui est avant et tout ce qui est après, je ne le revendique absolument pas.
Et j'ai juste envie de vous dire que Sly Dunbar m'a dit hier que c'est son image qui l'a inspiré pour le son de l'album. Quand ils étaient en studio, apparemment, il y avait l'image de Grace Jones qui ornait tout, qui était là et qui regardait ça et jouait. Est-ce que vous avez des souvenirs précis?
J'en avais fait une avant. C'était pas le premier disque qu'elle a fait.
Ils ont fait deux ensemble, oui, bien sûr.
Les Warm Leatherette. J'avais fait effectivement une image noir et blanc que Blackwell a insisté d'installer, mais elle était énorme, 4x3, en 4x3 en énorme dans le studio, pour que tous les Jamaïcains comprennent qu'ils avaient affaire pas à la Jamaïcaine, average Jamaican qui chante, mais à un personnage bien spécial. Donc cette image intimidait les musiciens, elle commandait le respect.
Pop. Etc. Avec Valley sur France Inter.
C'était Jean-Paul Good que j'ai eu au téléphone hier au Ali Badarou. Vous vous souvenez-vous de cette énorme photo dans le studio
Oui, absolument.
Compass Point aux Bahamas.
Oui, mais de là à dire que moi, c'est pas ce qui m'a guidé. Très honnêtement, j'étais dans la musique pour la musique. Je suis tellement heureux d'entendre Jean-Paul dire ce qu'il dit parce que ça me met à l'aise pour dire clairement qu'effectivement, à cette époque-là, Grace, en tant que Grace, c'était pas la chanteuse qui, au départ, il s'agissait pas vraiment d'elle. Il s'agissait pour Jean-Paul, forcément, d'elle. Mais moi, je dis, en tant que chanteuse, ce n'était pas la chanteuse qui nous impressionnait. Ce qui nous avait impressionné, c'était déjà d'être élu par un certain Blackwell, qui était un personnage complètement énigmatique, dont je peux vous assurer qu'on n'a jamais été présentés formellement l'un à l'autre. Nous étions très timides l'un l'autre et nous ne nous sommes jamais dit « Hi, I'm Wally Badarou. Hi, I'm Chris Blackwell. »
C'est fou.
On a compris qui était chacun. Bon, moi, j'étais à mon synthé, donc c'était facile. Mais moi, j'ai vu cette personne qui était tellement relaxée et en même temps très timide. Et on a démarré sans formalité.
Et donc, comment il travaille justement Blackwell? Il donnait des indications? Il laissait faire avec Alex Sadkin, alors, qui était l'ingénieur son?
Alors, ce n'est pas compliqué. Il dit qu'il n'y avait pas de préparation. Si, Blackwell, lui, il était préparé. C'est-à-dire qu'il est venu avec plusieurs piles de cassettes qu'on écoutait dans le control room,
dans
la cabine. Et Sly et Robbie étaient les deux qui savaient s'ils pouvaient faire quelque chose. Ils disaient « Yes, we're going to give a try ». Et puis on allait dans la cabine, et c'est vrai qu'il n'y avait pas de répétition. Eux démarraient quelque chose et tout de suite, c'était comme on disait, blood light, c'est-à-dire le feu rouge de l'enregistrement qui démarre. Et Blackwell, si la chose cooked, si la chose marchait, on gardait. Si ça ne marchait pas, on passait à la cassette d'après. Il n'y avait pas deux tentatives, il n'y en avait pas trois. Ce qui a créé chez moi une très vive frustration. Moi, je suis un travailleur très lent, très... j'aime bien prendre mon temps, peaufiner, chercher. Et je n'avais pas le temps de chercher du tout. Sauf après, quand tout le monde était parti. Et à ce moment-là, c'est là que Blackwell et moi, on a eu une relation très particulière parce qu'il a vu que il avait compris que j'avais besoin de ce temps de travail. Et tous les, ce qu'on appelle overdubbing, j'ai pu faire comme sur Private Life. C'est là qu'on a compris qu'on pouvait vraiment faire quelque chose de très, très spécial. Après les rythmiques, si vous voulez. Voilà.
Reprendre Libertango sur Nightclubbing est une idée de Jean-Paul Good qui adore son compositeur Astor Piazzolla. Good envoie la vinyle à Chris Blackwell, lui implorant de le réaliser pour Grace Jones. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ce titre est un des plus connus de la Jamaïcaine. I've seen that face before, Libertango dans Pop, etc.
Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Libre Tango dans Pop, etc. Wally Badarou, ce titre est co-signé par l'Argentin Astor Piazzolla, Barry Reynolds, l'anglais, et puis Nathalie Delon. Alors, et Nathalie Delon était très présente pendant ses séances à Compass Point Studios à Nassau, aux Bahamas.
Tout à fait, c'était l'âme française de nous. Parce qu'il y avait de ça. Je pense que ce qui a fait la réussite de ce cocktail, c'était vraiment la Jamaïque, l'Europe, et ce côté très français des choses que Nathalie, étant la copine et la compagne de Chris Blackwell à l'époque, et toujours d'ailleurs, ils sont très proches encore, insufflait à toute la chose. Et ce morceau, I've Seen That Face Before, me touche d'une manière assez particulière parce qu'un certain Roman Polanski l'utilise pour c'est presque la bande-son d'un film qu'il a fait qui s'appelle Frantic.
Tourné à Paris.
Mmh. Voilà. Et ce thème que j'ai écrit juste au début, avant que Grace ne chante, revient souvent dans ce film. Donc pour moi, ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre ça.
Il faut parler un peu du son des années 80 et en 1981, juste pour resituer les gens, qu'est-ce qui marchait à la radio, en tout cas en France. Il y avait Le Lac de Connemara de Michel Sardou, Pour le plaisir de Herbert Léonard. Il y avait le premier album de Jean-Jacques Goldman, Kids in America de Kim Wilde, Fade to Grey Visage, et puis Tainted Love de Soft Cell, Hell's Bells de AC/DC. Enfin, il faut parler de ce son, cette espèce de reggae qui... a priori chaleureux, mais il y avait une froideur des machines. C'était peu commun.
Oui, et en même temps, ce qui était marrant, c'est que nous, enfin, très honnêtement, moi, j'étais pas très conscient de ce qui se passait, parce qu'on était à ce point isolé du monde, parce qu'on était sur l'île, Nassau Campus Point. Et moi, finalement, très vite, je me suis établi là-bas, c'est-à-dire que cette chose qui devait être juste un album est devenue 14 ans de séjour là-bas. Et ce qui est très curieux, c'est que ça n'a pas du tout bien démarré. Je vais peut-être vous surprendre, mais au début, je n'aimais pas ça du tout. J'ai l'expérience même d'avoir travaillé sur Warm Leatherette et Nightclubbing. Je m'étais juré de ne plus jamais mettre les pieds à Nassau.
C'est pas vrai.
Oui, oui. Parce que la manière dont on travaillait, je n'avais pas encore compris. Je n'avais pas compris. Ça m'a pris du temps pour comprendre que c'était la seule façon d'atteindre ce son qu'on avait. Alors que moi, j'en étais resté à des choses encore très académiques. C'est-à-dire, quand on dit séance à 9h, à 9h moins 5, je suis là avec mes machines. Alors que là-bas, pas du tout, n'est-ce pas? Quand on dit séance à 14h, il n'y a personne avant minuit.
Oh non, c'est pas possible.
C'est normal.
Ça forme un homme, j'imagine.
Tout à fait. Voilà, je suis arrivé avec Barry, que j'ai rencontré dans l'avion.
Barry Reynolds.
Voilà, Barry Reynolds. On a atterri là-bas et on est resté une semaine sans voir personne. Une bonne semaine avant que Alex Atkin, l'ingénieur, n'arrive. Ensuite, Sticky Thompson, Mikey Chung. Et petit à petit, les gens sont arrivés. Donc, moi, j'ai détesté ça. Mais alors, vraiment détesté. Et ce n'est qu'à la fin, lorsque, en partant vers New York, Chris Blackwell me dit, Wally, you know what? Je pense que j'ai ici le meilleur groupe du monde. Et je pensais qu'il était en train de me dire bullshit, comme on dit en anglais.
Oui, c'était une foutaise.
Voilà. Mais en réalité, il le pensait vraiment. Mais moi, je n'ai compris cela que quand je suis revenu à Paris et que j'ai écouté la cassette de ce qu'on vient d'entendre, Libre Tango, et soudain, c'était la révélation. Et quand il me dit, Wally, next. Et là, avant même j'étais déjà dans l'avion. Et je suis resté 14 ans.
Demolition Man est signé Sting. Jones l'enregistre pour son album Nightclubbing en 81. Et la même année, mais après Jones, Police l'interprète sur leur propre album Ghost in the Machine.
I'm a walking nightmare and I suffer the doom. I feel my frustration as I walk into the room. I'm a three-night.
Christian Demolition Man, Wally Badaro est toujours mon invité depuis minuit. Christian, on n'a quasi pas parlé d'elle. Comment elle était en studio avec vous? Est-ce qu'elle était là tout le temps? Est-ce qu'elle arrivait à chanter sur une rythmique, sur une playback?
Oui, tout à fait.
Donc vous n'avez pas beaucoup à côtoyer?
Si, non, enfin, nous étions, et Blackwell lui aussi était dans le studio avec nous. Très, très, très vite, c'est devenu une affaire fusionnelle. Grace chantait avec nous, mais bien évidemment, elle refaisait ensuite ses voix définitives. Mais on avait besoin de sa voix pour savoir où est-ce qu'on en était, puisque comme vous le savez très bien, avec Sly Robbie, on n'était pas à lire des partitions. C'est pas compliqué. Les choses se faisaient au feeling, quoi. Ah.
Ouais. Comment avec vous? Elle était gracieuse, naturelle, rigolote, tandis qu'elle est assez rigolote.
Non, mais c'est-à-dire que quelque part, personne ne se la jouait, quoi. On était des musiciens, c'était pro, quoi, et tout le monde avait conscience de faire vraiment son truc le mieux possible. Et puis on prenait son pied après, quoi, dans la cabine, à réécouter ce qu'on avait fait, quoi.
Vous avez appris, si j'ai bien compris, Wally Badaru, à vous détendre, attendre minuit quand on a dit 14 heures. Oui. Est-ce que vous avez appris quelque chose aux autres musiciens, peut-être des Jamaïcains, sans faire un cliché, qui étaient plus habitués à prendre leur temps, etc.
Probablement. C'est ça, justement, c'est cette rencontre entre deux manières de voir les choses, enfin plusieurs, parce que je n'étais pas seulement... Bon, je suis africain également, faut pas
oui, vous êtes béninois.
Béninois. Et donc c'était pas surprenant, finalement, qu'on se retrouve. Mais c'était quand même un sacré pari. Hein, pourquoi est-ce que Blackwell a pensé à Barry, moi, il connaissait rien de moi, à part pop music que j'avais fait en 79.
Pop music.
Ouais. Et c'était à peu près la seule chose que j'avais à mon actif. Alors que les autres, bon, c'était beaucoup plus parlant.
Alors, vous avez rejoué avec Grace Jones pour les 50 ans de Label Island, oui. À New York en,
oui,
2009.
Et c'est pas fini.
C'est pas fini, alors racontez-nous un scoop ou pas?
Bah écoutez, il y a d'autres albums en préparation.
Oh, c'est super! Alors le dernier album, vous me faites une super transition. Elle a donné un concert au Grand Rex en mars 2009, diffusé en direct à cette époque sur France Inter. Voici un extrait. La chanson s'appelle This Is, un extrait de son album sorti la même année, Hurricane.
day after day, igniting the fire. This is a key, this is a door. Imagine the view from the basement floor.
Grace Jones live sur la scène du Grand Rex en mars 2009 dans Pop, etc. Merci beaucoup Wally Badarou d'être venu aujourd'hui. Merci aussi à Sly Dunbar et Jean-Paul Good d'avoir répondu à mes questions. Jean-Paul Good travaille actuellement sur une tournée mondiale de sa fabuleuse rétrospective Good Malion. L'interview de Grace Jones a été réalisée par Didier Varou. Merci à Eric Oswald pour la voix française de Sly Dunbar. Toutes les infos liées à cette émission sont sur notre site, tapez franceinter.fr. Vous pouvez la réécouter en podcast ou par streaming. Samedi prochain, je raconte la fabuleuse histoire des albums Revolver et Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band avec Christophe Comte et Chandrika Kasali. C'est son père qui a présenté George Harrison à son mentor Ravi Shankar. Pop etc. a été réalisé par Antoine Dobrowski avec Ludovic Asselot. Elle a été préparée par Corinne Valente et Caroline Rousseau. La programmation musicale est signée Djoubaka. Très bonne soirée sur France Inter. Juste après des infos, on parle musique. Sylvie Chapelle reçoit Robert Bananterre.